Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat d'été consacré ce soir à la diplomatie dans un monde de moins en moins multipolaire. À l'ordre du jour ce soir, une autre diplomatie est-elle possible? Le Conseil des ministres a procédé hier à la nomination de nouveaux ambassadeurs, par exemple à la FAO, au Conseil de l'Europe ou encore à l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'occasion pour nous de questionner le rôle de la diplomatie dans un monde qui voit se dresser l'une contre l'autre deux puissances extra-européennes, la Chine et les États-Unis. Une question qui ne concerne pas d'ailleurs que la diplomatie, la science politique ou encore la géopolitique, car la revue d'anthropologie Terrain est titré pour sa dernière livraison à paraître au mois de septembre Homo Diplomaticus. Pourrait-il exister une diplomatie qui ne prendrait plus seulement en compte les seuls États, mais aussi le reste, c'est-à-dire les animaux, la planète, la nature? Ce sont des questions que nous pourrons mettre à l'agenda de cette émission de trois quarts d'heure avec nos trois invités. Emmanuel Devienne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur, anthropologue à l'Université Paris-Nanterre et au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Et vous avez co-dirigé ce numéro de Terrain qui s'intitule donc Homo Diplomaticus avec Vanessa Manseron. Avec nous également Tara Varma, merci d'être avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du bureau de Paris du think tank European Council of Foreign Relations et vous avez suivi en particulier la politique européenne et étrangère de la France ainsi que les efforts de construction d'une politique étrangère au niveau européen. Avec nous également un ancien ambassadeur, bonsoir Claude Martin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc ancien ambassadeur en Chine en particulier, et déjà et dans bien d'autres postes, et vous êtes surtout l'auteur d'un best-seller, on pourrait presque dire, un gros livre de presque 1000 pages qui sont vos souvenirs et qui porte un très beau titre, La diplomatie n'est pas un dîner de gala, mémoire d'un ambassadeur, Paris, Pékin, Berlin, paru il y a 3 ans maintenant aux éditions de l'Aube, c'est cela ?
2 ans.
2 ans, voilà. Et donc c'est un livre très intéressant qui entre effectivement dans les coulisses de la diplomatie et qui nous fait comprendre aussi les mécaniques diplomatiques, ce dont nous parlerons avec nos autres invités. Un autre écrivain de la diplomatie, il s'appelait Romain Gary.
J'étais porte-parole, c'était un métier horriblement difficile. C'est-à-dire je parlais à la presse, télévision, radio et journaux évidemment, des conférences de presse quasi quotidiennes. Et ce qu'il y avait de plus grave, c'est que je défendais des points de vue absolument exorbitants et complètement contraires à mes convictions. J'agissais, je me suis expliqué là-dessus plusieurs fois, comme un avocat qui défend un monsieur qui a violé une petite fille, dont le métier consiste à la défendre quand même. J'ai expliqué que le Maroc et la Tunisie, on ne peut pas lâcher ça. L'Algérie, la question ne se posait même pas. L'armée européenne était absolument indispensable. Et puis, quand j'ai démontré ça pendant des mois, Mendès-France est venu au pouvoir. Il y a eu un vote du Parlement contre l'armée européenne. Et le même monsieur, c'est-à-dire moi, a expliqué que l'armée européenne est une très mauvaise chose. C'est à dire qu'elle n'a pas été votée. Démissionné. Demander plus exactement à être rappelé. Pour vous dire la nature du travail, mon successeur a eu une dépression nerveuse. Au bout de 6 semaines, il a fallu l'évacuer sur un brancard. Alors, ça a été très, très désagréable.
Voilà, c'était les souvenirs désagréables de Romain Gary au Nu Magnétique de France Culture en avril 1978 au micro de Jean Dev. Claude Martin, il faut en avaler des couleuvres quand on est ambassadeur. Ouais,
d'abord, je veux dire mon admiration pour Romain Gary.
Ouais, on comprend, oui.
Un très grand ambassadeur. Il était détesté par toute la hiérarchie du Quai d'Orsay. Couve de Murville ne savait pas quoi en faire. On l'envoyait le plus loin possible.
C'était un peu comme Malraux pour la culture. C'est-à-dire
peut-être,
que c'était un personnage qui était tellement libre que c'était très difficile de le faire.
Mais c'est un très grand écrivain. Et c'est un très grand humaniste.
Ouais. Et effectivement, ce qu'il dit...
Oui, ce qu'il dit est juste. C'est-à-dire qu'on est très 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 souvent dans le métier diplomatique confronté à cette question. Est-ce que je défends la position que le gouvernement me demande de défendre, alors que je suis contre.
Et vous êtes trouvé souvent dans ces situations?
Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je l'explique d'ailleurs dans le livre que vous avez eu la gentillesse de signer. Quand on explique à l'époque à nos amis chinois entre guillemets, hein, mm-hmm. C'est une expression,
c'est une expression qu'on utilise, diplomatique,
qu'on utilise beaucoup au Quai d'Orsay. Quand il faut expliquer au gouvernement de Pékin que pour des raisons d'emploi et de santé de l'entreprise, on est obligé de vendre des armes de guerre aux pays d'en face, alors qu'on trouve que c'est pas la meilleure façon de développer les relations avec le pays où on est envoyé. On est devant un problème. Et le problème se résout, il est facile à résoudre, c'est-à-dire qu'on essaye des deux côtés de faire changer les choses. Mmh. du côté du pays où on est envoyé en leur expliquant que c'est certainement une chose un peu irréfléchie et que on va retourner à Paris aider le gouvernement qui vous a envoyé à réfléchir un peu mieux. Et puis on retourne et on essaye de faire changer un peu la position. Mmh. Et si vraiment à la fin elle ne change pas, là se pose la question de la démission.
Mmh. Sur ce point et sur d'autres, lorsque vous avez travaillé, Emmanuel de Vienne, en tant qu'anthropologue sur cette question de la diplomatie, pour pouvoir en faire un livre, vous l'avez abordé d'une autre manière que de la manière dont vient de nous parler Claude Martin, qui est la manière traditionnelle, pourrait-on dire, de la diplomatie. D'ailleurs, il y a l'interview d'un très grand diplomate, Yves Saint-Jour, dans cette revue qui raconte justement, et vous dites d'ailleurs, je crois, vous l'avez titré cette interview, « L'art de rester soi, la diplomatie traditionnelle aujourd'hui ». Qu'est-ce que la diplomatie qui ne serait pas traditionnelle selon vous en tant qu'anthropologue?
D'abord, je voudrais rectifier, c'est pas Vanessa Manson qui a co-organisé le numéro, c'est Chloé Naoum Claudel avec moi. Vanessa Manson a été rédactrice en chef avec moi jusqu'à il y a 2 ans. Mais oui, les liens avec ce que disait Yves Saint-Jour dans le numéro sont évidents, c'est qu'effectivement il y a dans la diplomatie traditionnelle une question dont on parlait tout à l'heure, qui est celle de la position et du rapport entre se transformer, ce qui est un petit peu nécessaire quand on est ailleurs. Et si on veut être un bon ambassadeur, il faut avoir cette perméabilité à l'autre, cet art de la porosité, et en même temps la nécessité de défendre les intérêts de son pays. Donc accepter de, malgré tout, malgré les dissensions qu'on peut avoir avec les choix politiques de son pays, rester soi ou rester le soi que rester l'État. Et donc ça c'est à la fois très différent et en même temps ça a des affinités assez nettes avec le travail d'anthropologue. Donc ça fait partie des liens qu'on a essayé de tisser entre le travail des anthropologues, ce que les anthropologues...
Connaître l'autre,
accepter aussi une forme de transformation de soi. Mais néanmoins, chez les anthropologues c'est très différent puisqu'on a plutôt tendance à pas forcément devenir l'autre, mais en tout cas devenir très souvent l'ambassadeur des gens avec qui on passe du temps sur le terrain.
Et vous avez noté tout de même dans ce numéro, et c'est fort intéressant, combien les anthropologues ont été à l'origine d'un certain type de diplomatie après la Seconde Guerre mondiale, en particulier par l'intermédiaire de l'UNESCO, c'est-à-dire combien ils ont peuplé ce lieu de la diplomatie culturelle internationale voulue par les instances de l'ONU, qui était l'UNESCO, tout de suite après la guerre. Et il y avait là Claude Lévi-Strauss et tout un tas d'autres qui étaient là.
Oui, il y a eu un vrai moment anthropologique après la guerre qui a contribué autour de Lévi-Strauss, Alfred Métraux, même Margaret Mead, à faire en sorte que les idées de l'anthropologie et le savoir anthropologique puissent servir cette quête d'un ordre mondial pacifié par les connaissances de l'altérité, etc. Et en même temps, dès ces années-là, dès 61, on peut dire que Lévi-Strauss a pointé du doigt ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi, les transformations de ce métier d'anthropologue avec le monde postcolonial qui se construisait et la difficulté à, voilà, la nécessité pour l'anthropologie aussi de sortir des rapports de domination qui pouvaient avoir eu lieu et être le cadre de l'exercice du travail anthropologique.
Tara Varma, vous qui dirigez le bureau de Paris du think tank ECFR, donc vous réfléchissez en particulier dans le cadre européen à ces questions diplomatiques et vous les voyez évoluer, en particulier dans ce sens où l'UNESCO était une institution multipolaire et qu'aujourd'hui la multipolarité, où qu'elle soit, est souvent mise en cause et même remise en cause tellement qu'au bout du compte on préfère la bipolarité entre deux pays plutôt que le développement justement de relations multipolaires entre tous les pays.
Alors je pense que les deux sont pas du tout mutuellement exclusifs, c'est-à-dire que la France en tant que nation souveraine conduit des relations diplomatiques bilatérales avec tous les pays avec lesquels elle a une ambassade, et par ailleurs la France est un acteur dans le jeu multilatéral en tant que pays européen mais aussi en tant que pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc il y a une multitude de volets dans lesquels la France agit. Ce qu'on a vu, j'ai trouvé avec la pandémie, c'est que les pratiques diplomatiques ont évidemment été affectées au même titre que les pratiques professionnelles de quasiment la totalité de la population de la planète. Et un certain nombre de réunions qui se tenaient normalement en personne, qui devaient durer des heures et des heures, des sommets, des conseils, évidemment tout cela a été annulé pour raison de santé et de sécurité sanitaire. Et ça a été remplacé par une pratique qui s'est faite quasiment intégralement en ligne, de manière numérique. Et je pense que les diplomates, au même titre que les autres professionnels, ont été un peu perturbés par ce changement assez radical. Et ça a transformé leur manière de travailler. Et on voit bien, dans la manière dont les choses se sont déroulées, qu'il y a des choses très positives à prendre de ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réunions dont on voit qu'elles pourront se tenir en téléconférence. Pour autant, le contact personnel, les rapports humains, la capacité...
C'est ce qu'on disait avant le Conseil européen. On disait, voilà, on ne peut plus négocier 2 à 2, 3 à 3 dans un coin en prenant un café pendant ces longues nuits de négociation. Et ça, c'est plus possible avec justement cette vision en visioconférence. Et il faut rétablir ces moments où il y a quelque chose qui se passe entre la conférence et la conférence qui suit.
Absolument, et on voit bien d'ailleurs que tous les éléments préparatoires au Conseil européen qui s'est tenu là il y a quelques jours, ils ont permis, je pense, au Conseil, après 4 jours de négociations vraiment très ardues, de présenter une proposition qui était intéressante pour tous les Européens, qui était au départ une proposition plutôt franco-allemande, qui a été reprise par la Commission européenne, et ensuite ça a été une discussion avec les 27.
Claude Martin, cette question du face-à-face, de ce que l'on se dit dans le bureau de l'ambassadeur ou dans le bureau du ministre que l'on va rencontrer, de ce qui se passe en face-à-face avec son propre ministre quand on le rencontre une fois de temps en temps à Paris ou qu'il vient vous voir, et puis aussi de ce qui se passe en dehors de tous ces moments-là. Comment cela se gère-t-il en que quand on est en ambassadeur comme vous?
Oui, le contact est important. Et tous les contacts, ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire le contact entre les dirigeants, le fait que Emmanuel Macron et Angela Merkel puissent se voir. Bon, je pense d'ailleurs que l'avenir de l'Europe, il repose beaucoup sur la multiplication de ces contacts. Il y a eu une grande invention dans l'histoire qui a été le Conseil européen. Une partie des bénéfices de ce Conseil européen a été perdue parce que l'Union européenne s'est élargie. Mm-hmm. Il faut aller.
Vous n'étiez pas trop pour, d'ailleurs, vous-même,
oui,
personnellement.
Non, mais c'est tout à fait vrai. Je raconte la façon dont les négociations se passaient, par exemple, lorsqu'on a négocié l'entrée de la Grande-Bretagne. 6 autour d'une table, dans une petite pièce, chacun retirait ses chaussures, on voyait qui avait des trous à ses chaussettes, etc. Donc maintenant, vous avez une table immense. Les interlocuteurs se voient en fait par des écrans de télévision, donc même quand il y a contact, il n'y a plus le contact. Il y avait, c'est très très important de garder le contact humain, de pouvoir se
serrer la main, même
se serrer la
en
main,
temps de Covid,
même
ça
quand
des,
on
ça
se fait serrer la main, se chuchoter, ouais. Se chuchoter des secrets, se dire des choses qu'on ne peut pas écrire et comploter un peu à 2, à 3, etc. Car je crois que, surtout maintenant que l'Union européenne est très élargie, il faut constituer des groupes de forces qui restent les moteurs. La France et l'Allemagne, c'est vraiment le noyau. Et c'est très important de se voir souvent. Je pense que c'est quelque chose qui, maintenant, va repartir, je pense. C'est très important. Mais le fait qu'on n'a pas pu le faire pendant longtemps nous a fait perdre du temps.
Emmanuel de Vienne, quand on réfléchit en tant qu'anthropologue justement à ces pratiques de rencontre, de distance, de mise à distance et puis de retour dans le contact direct, tout cela, ça vous intéresse en tant qu'anthropologue? Et qu'est-ce que vous en dites justement? Vous faisiez tout à l'heure le parallèle avec vos propres terrains. Vous allez voir populations et les peuples que vous rencontrez, vous repartez pour revenir à Paris, mettre vos notes propres, vous y retournez un an plus tard, etc. C'est un peu la même chose que ce que décrivait Claude Martin.
Je pense que la comparaison n'est pas tant dans le, enfin, elle peut être faite sur le travail de l'anthropologue et le travail du diplomate, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que là, l'objet d'enquête, qui serait les relations diplomatiques, on voit bien que il est tout à fait pertinent de comparer la diplomatie telle qu'elle est pratiquée par les diplomates de carrière et entre États, et la diplomatie qui peut avoir lieu entre deux villages amazoniens, par exemple dans le Haut-Xingu où je travaille, et qui va prendre une forme radicalement autre. Mais dans les deux cas, malgré les différences, malgré le fait que les codes de communication soient pas les mêmes, on en revient toujours à des rapports incarnés. Et c'est ça qui me fascine, c'est que on a beau opposer dans un cas des collectifs de millions d'êtres et dans l'autre des villages de 50 personnes, finalement, tout va se jouer à une échelle miniature. C'est une des hypothèses qu'on formule, c'est que la diplomatie, lorsqu'elle a lieu, elle n'a pas toujours lieu dans toutes les sociétés, elle doit en passer par une forme de modélisation. L'idée qu'on réduit l'échelle pour être en interaction, en face à face, entre des corps qui interagissent selon des règles qu'ils se donnent et qui sont en général très explicites. Parce qu'il y a une interculturalité, donc une nécessité de construire historiquement des règles explicites et hors de la communication ordinaire entre les acteurs.
Tara Varma.
Justement, je crois qu'on se dirige vers un modèle un peu hybride où on va avoir à la fois de la visioconférence, de la téléconférence, et la nécessité, comme le disait Claude Martin et Emmanuel de Vienne, de quand même se rencontrer, d'avoir des rapports humains. Et je trouve que c'est une opportunité formidable pour la diplomatie française et la diplomatie européenne aussi, de se démocratiser.
Qu'est-ce que vous appelez se démocratiser ?
Pour l'instant, la diplomatie, elle reste quand même, et la définition de la politique étrangère en France, plutôt la prérogative de la branche exécutive du gouvernement. Nos voisins européens, ils sont quand même assez étonnés qu'on puisse faire des interventions militaires sans avoir l'assentiment du Parlement national. C'est des choses qu'on fait, dont on a l'habitude d'une certaine manière en France. Mais l'idée que la diplomatie, que nos priorités de politique étrangère soient discutées dans le débat public, qu'on y associe les citoyens, je pense qu'il faut qu'on avance dans cette direction absolument. Et on voit bien que, typiquement dans le cadre de la Convention climat, qui est à mi-chemin entre le national et l'international, le multilatéral, les citoyens étaient heureux d'être associés à cette initiative, non seulement d'y être associés, mais d'en être en fait les forces de proposition.
C'est ce qui s'était passé aussi dans la préparation de la conférence de Paris sur le climat, où il y avait eu ces grandes discussions avec des étudiants de Sciences Po et d'ailleurs menées par Bruno Latour et d'autres, Laurence Dubiana, pour pouvoir faire jouer d'une certaine façon à des citoyens, des jeunes citoyens, faire jouer ce qui peut se jouer dans une conférence internationale sur le climat.
C'est ça. Et donc, une autre diplomatie est-elle possible ? Elle est possible, notamment si on y associe la société civile. Et la France, elle en a besoin, surtout à un moment donné où on voit une érosion vraiment du budget qui est consacré à la diplomatie. On
a Alors signé... ça, il faut le dire que vous avez signé un texte dans Le Monde, c'était il y a 2 semaines. Ça nous a aussi donné un peu idée de faire cette émission. Un texte justement pour dire arrêtons de faire s'éroder un réseau qui est unique ou presque unique, puisque je crois que c'est le 3e réseau diplomatique au monde derrière les États-Unis et la Chine, et de faire en sorte que chaque année, on supprime des postes, on supprime des lieux, on supprime des institutions qui permettent justement cette diplomatie française.
Tout à fait. On appelle à mettre fin à l'érosion dans les budgets, et je pense qu'en complémentarité, il faut aussi qu'on associe vraiment davantage la société civile à nos priorités de politique étrangère. Et les sociétés civiles, ce sont les ONG, les associations, les entreprises, qui puissent travailler avec nous à la fois dans la définition de nos priorités et dans le déploiement de ces priorités à l'étranger.
Claude Martin, vous qui êtes le représentant de cette diplomatie traditionnelle dont on parlait tout à l'heure, de Yves Saint-Jour, qu'est-ce que vous pensez justement de ce genre de proposition ?
Je ne sais pas ce que c'est que la diplomatie traditionnelle.
Non, mais je pense que
je pense que la diplomatie est le 2e plus vieux métier du monde et qu'on y a toujours exercé les mêmes fonctions avec les mêmes méthodes. Il s'agit d'une part de porter le message du pays que l'on incarne.
De représenter.
Dans le pays où on est envoyé, et de le représenter bien, et de le valoriser. Il s'agit de l'autre côté d'apporter au pays qui vous envoie toutes les informations sur le pays partenaire, pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'appréciation. Et ayant établi ce pont, d'essayer de voir comment on peut faire que les deux... Le mandataire et le mandant puissent travailler ensemble, se rapprocher, etc. Alors, tout à l'heure, un concept a été évoqué qui est celui de multipolarité. Pas tout à fait la même chose que le multilatéralisme.
Bien sûr. Donc,
je pense que on est dans un monde global et dans lequel il y a tout un tas d'organisations pour développer les rapports culturels, économiques, financiers, humains, bien sûr, entre tous les peuples de la planète. Et il n'en reste pas moins qu'il y a des peuples. Et il y a des peuples très divers. Et tout l'équilibre de la diplomatie, tout l'équilibre à trouver, c'est d'une part de mener cette action multilatérale, c'est-à-dire d'être acteur du monde, de porter la voix de la France dans un grand concert international, et en même temps de respecter chacun des pays qui sont de l'autre côté, parce qu'il y a plein de pays. Il n'y en a pas que deux, il n'y en a pas que... Il n'y a pas que les États-Unis et la Chine.
On a 160 ambassades dans le monde, et je crois qu'il y a 192 qui sont inscrites à l'ONU.
Nous sommes encore 28, bientôt 27. Donc, il y a plein d'acteurs. Et la base, le sel de la diplomatie, ça consiste à connaître celui qui est en face. Le drame de la diplomatie nouvelle dont vous parlez à l'instant, c'est que, grâce à tous les... Enfin, je ne vais pas relire McLuhan ici, mais grâce à tous les moyens de communication que nous avons, les responsables du monde, aujourd'hui, ont l'impression qu'ils connaissent, c'est en face, etc. Et que de fois dans mes missions, à la fois comme ambassadeur en Chine, et plus encore en Allemagne, on croit connaître l'Allemagne, j'ai eu des interlocuteurs en face qui m'ont dit, mais votre Premier ministre ou votre ministre, etc., est-ce qu'il se moque de nous ? Est-ce qu'il sait ? Est-ce qu'il sait qui nous sommes ? Est-ce qu'il sait quels sont nos écrivains ? Quels sont nos artistes ? Est-ce qu'il sait qui est X et Y, etc. Donc, il faut connaître, et cet équilibre est absolument fondamental dans la diplomatie.
C'est la question du malentendu ?
Oui, en effet.
Emmanuel de Vienne.
Le malentendu est au cœur de l'exercice diplomatique et de la rencontre interculturelle, et c'est un des grands, la notion de malentendu productif est une des grandes notions de l'histoire de l'anthropologie. Mais pour rebondir sur ce qui était dit sur la question de la diplomatie traditionnelle, je pense qu'il y a, on aurait dû dire diplomatie traditionnelle occidentale. Il y a des tas de diplomatie traditionnelle non occidentale, mais un des défis, c'est pas seulement d'associer, aujourd'hui, d'associer la société civile, mais c'est aussi de trouver un moyen de faire exister des collectifs qui ne sont pas représenter l'atmosphère, le climat,
la nature, ou le vivant. Voilà.
Et je pense que pour répondre, oui, voilà, si l'anthropologie ou la philosophie a quelque chose à apporter, c'est peut-être ce pas de côté qui provient en partie de la découverte de sociétés qui tissent avec le vivant ou avec la nature d'autres formes de relations, de s'inspirer de ça pour essayer d'établir un nouveau contrat et faire exister politiquement des entités qui n'ont pas la parole dans la diplomatie traditionnelle occidentale.
C'est ce que espéraient d'ailleurs certains anthropologues et sociologues qui voulaient porter plainte contre le Brésil à propos justement de pour crimes contre l'humanité, pour ce qui se passait dans l'Amazonie, c'est-à-dire les incendies, etc. Non pas pour la mort de telle ou telle personne, mais pour un pays qui ne protégerait pas sa propre nature. Tara Varma, ça peut faire partie de cette nouvelle diplomatie dont vous parliez tout à l'heure?
Absolument. Et je pense que ce qu'on voit, on a vu que traditionnellement, les sujets qu'on appellerait soft, la santé, l'éducation, l'égalité femmes-hommes, c'était quand même pas les priorités de la diplomatie française. Encore une fois, la crise de Covid, elle est révélatrice de quelque chose là, puisque on met la santé au premier plan, on nous explique que la santé, ça relève de l'autonomie stratégique européenne, que nos chaînes de valeur, nos chaînes d'approvisionnement, elles font partie de nos priorités stratégiques. C'était pas quelque chose qui aurait été évident il y a quelques mois. Et l'idée même d'une souveraineté sanitaire européenne, qui est un des sujets sur lesquels j'ai travaillé avec deux collègues, on a publié un papier là-dessus il y a un mois. Je pense que c'est une notion qui était inabordable vraiment il y a 5 mois. Et d'ailleurs, l'idée même de souveraineté européenne était contestée par de nombreux Européens. Aujourd'hui, la souveraineté sanitaire européenne, je crois que c'est quelque chose, c'est un agenda sur lequel de nombreuses personnes se sont mises d'accord. Si la santé peut devenir un enjeu prioritaire, je crois qu'à la fois l'éducation et l'égalité femmes-hommes et la mise en place d'une diplomatie féministe, ça devrait absolument être dans les priorités d'une autre diplomatie.
Alors, une autre diplomatie où la même Emmanuel Macron, lors de la conférence des ambassadeurs, traditionnelle conférence des ambassadeurs, le 27 août dernier, c'était donc il y a presque un an, évidemment, le monde a changé depuis.
Nous sommes dans un monde où les conflits se multiplient et où je vois deux principaux risques. Le premier, c'est que ces conflits font de plus en plus de victimes civiles et changent de nature. Et la deuxième chose, c'est que l'ensauvagement est reparti. Et là aussi, l'ordre sur lequel reposaient parfois nos certitudes et notre organisation est en train de disparaître. On abandonne les traités de contrôle des armements. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, me faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Et ensuite, ça doit nous conduire à interroger notre propre stratégie. Parce que les deux qui ont aujourd'hui des vraies cartes en main dans cette affaire sont les États-Unis d'Amérique et les Chinois. Et ensuite, nous avons un choix par rapport à ce grand changement, ce grand basculement. Décider d'être des alliés minoritaires de l'un ou l'autre, ou un peu de l'un, un peu de l'autre, ou décider d'avoir notre part du jeu et de peser.
Voilà ce que disait à la conférence des ambassadeurs en août dernier le président de la République. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce type de réunion, aussi de ce type de message qui évidemment quand tout est bouleversé comme ça a pu être en 2001 avec les tours jumelles, comme ça a pu être en 89 avec la chute du mur de Berlin ou comme ça peut l'être depuis quelques mois avec la Covid, toutes ces idées de la diplomatie française peuvent être rebattu brièvement ou très rapidement parce qu'il faut reprendre un autre chemin, Claude Martin.
Écoutez, je suis assez âgé maintenant pour avoir connu plusieurs
crises.
Non seulement plusieurs crises, mais aussi plusieurs façons de voir le monde. Je suis entré au Quai d'Orsay à cause du général de Gaulle parce que j'étais heureux de voir un homme qui avait quand même un certain nombre de titres à la reconnaissance nationale expliquer que la France, elle devait contribuer à dissoudre les blocs et à permettre aux nations, aux États d'organiser librement leur coopération. Et voilà, après 50 ans, On voit se reconstituer des blocs. Mmh. On voit se reconstituer une guerre froide. On voit se dire, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Il y a une sorte de croisade qui s'organise. Je trouve que le mot de valeur est un petit peu dénaturé, c'est-à-dire qu'on l'emploie pour tout justifier. Moi, pour moi, les valeurs, c'était les valeurs qu'utilisait Foster Deleuze pour justifier depuis la guerre de Corée, puis jusqu'au Vietnam, etc.
Il fallait dire que c'était le secrétaire d'État américain.
De politique impérialiste qui est sous l'oise des valeurs. Donc, je suis assez prudent avec les changements réguliers dans les orientations. Je crois que fondamentalement, comme je le disais tout à l'heure, il faut respecter les autres nations, les autres peuples. Il faut certainement choisir ses partenaires. On n'est pas forcé de coopérer avec des gens qu'on n'aime pas ou qui piétinent ce à quoi on croit. Et on peut même, au contraire, leur dire beaucoup plus franchement qu'on ne le fait notre désapprobation. Mais se mettre systématiquement dans un camp contre un autre, ça n'est pas favoriser la paix. Donc je crois que la diplomatie étant chargée dans l'ensemble des métiers, étant ce métier particulier qui consiste à essayer de faire la paix, ça n'est pas la bonne voie.
L'ensauvagement du monde, c'est une expression très particulière qui a été utilisée par le président de la République. Ça voudrait dire que ça va assez à l'encontre de ce que vous démontriez tout à l'heure, Emmanuel de Vienne, c'est-à-dire cette idée que il faudrait justement de ce sauvage faire ce sauvage nôtre, puisque c'est aussi là où nous vivons, d'une certaine façon, cette nature que l'on considérait comme sauvage dans le temps. Enfin, c'est tout le travail Anastasia Martin ou d'autres, etc., de se dire, bah, tout compte fait, cet autre sauvage, c'est nous aussi, et tout cela, il n'y a pas la séparation entre cette nature et cette culture que nous représenterions, par exemple, comme le disait Descola.
Oui, alors voilà, la notion de sauvagerie est quand même un petit peu connotée en anthropologie. C'est vrai que Anastasia Martin l'emploie dans le titre les âmes sauvages, mais là je crois que lui faisait plutôt référence à une forme de militarisation du monde.
Et oui,
il y aurait un moyen de sauver le terme, effectivement, en le prenant avec des pincettes comme le fait Anastasia Martin, en essayant de se reconnecter au vivant d'une autre manière, et c'est effectivement tout un courant de pensée qu'on voit émerger depuis quelques années avec Anastasia Martin, Baptiste Morisot, qui a une contribution dans le numéro.
Absolument.
Ou Vinciane Després, ou Eduardo Cohn, des gens qui cherchent à repenser notre rapport au vivant sur un autre mode que celui de l'objectivation. Et je crois qu'un des points importants, c'est que c'est aussi quelque chose vécu comme très, très incarné.
Oui. Mais comment faire cela quand effectivement on se retrouve avec des cultures qui sont en face de soi, qui ne partagent pas, par exemple, cette idée, ces mêmes valeurs, par exemple cette question de la nature, de la façon dont on doit protéger la planète, etc. Il y a évidemment dans d'autres endroits de la planète une autre vision des choses. Vous fréquentez effectivement des peuples en Amazonie qui n'ont pas la même vision que nous. C'est aussi le cas de Philippe Descola qui l'a fait avec les Achois. Il y a effectivement, disons, d'autres visions du monde. Comment fait-on pour négocier ces visions du monde dans un contexte de crise planétaire, etc., etc.
C'est effectivement un énorme problème et une grande difficulté. J'ai évidemment pas la réponse. Ce numéro avait justement pour vocation de mettre ensemble ces deux sphères d'une certaine manière. Des gens qui travaillent ou qui s'intéressent à la diplomatie que j'appelais traditionnel tout à l'heure, et puis de l'autre, des gens qui travaillent en philosophie ou en anthropologie sur le rapport vivant, sur d'autres sociétés, d'autres formes alternatives du côté des peuples autochtones. Je mets là aussi des guillemets sur ce terme. Mais les deux mondes, pour l'instant, n'arrivent pas à se mettre ensemble, et surtout, les peuples autochtones sont finalement politiquement pèsent à la marge des relations internationales, j'ai l'impression, en dotant leur catégorie d'autochtones, qui est d'abord une catégorie politique, qui veut dire qu'on a perdu une certaine souveraineté sur sa terre. Ils la dotent d'un contenu culturel, en inventant des concepts comme celui de terre-mère, qui serait commun à tous les peuples autochtones. Donc on peut être aussi assez dubitatif en tant qu'anthropologue avec cette évolution, mais je pense que ça témoigne de la difficulté qu'il y a à faire accepter justement ces formes autres de rapport à notre environnement dans l'espace politique mondial d'aujourd'hui.
Et parfois, eh bien, cela se croise, comme le cas, par exemple, de Texaco Chevron, attaqué par un avocat. C'était Pablo Fajardo, avocat équatorien de la partie civile dans un grand procès. Il témoignait au micro d'Olivia Gesbert de ce qui se passait. On se trouve dans l'Amazonie équatorienne. Texaco s'est installé en 93. Il a quitté le pays en laissant derrière lui une des pires catastrophes écologiques et humaines au monde, à la tête de 30 000 paysans d'Amazonie. Et bien cet avocat, lui-même ancien ouvrier de Chevron Texaco, est parti en justice avec d'autres avocats afin d'obtenir gain de cause. On l'écoute.
On n'est pas encore au bout de cette histoire. Nous sommes dans un processus. Ça fait 26 ans que nous résistons, qu'il y a une lutte sociale des peuples victimes qui sont des paysans autochtones, les peuples autochtones de l'Amazonie, du nord de l'Équateur, qui se sont battus avec les paysans et qui ont été agressés déjà il y a 52 ans. Donc, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas au bout. Il y a pourtant une sentence définitive qui a été prononcée par un tribunal équatorien, mais Chevron refuse d'appliquer cette décision de justice et de payer ce qu'il doit. Et donc, nous menons cette bataille au niveau mondial, dans le monde entier, parce que nous voulons que les crimes contre l'environnement, contre la nature, ne restent pas impuni. Il faut que Chevron paye et il faut restaurer l'Amazonie.
9 milliards de dollars de réparation qui étaient demandés, autant de dommages et intérêts qui ne sont pas encore versés, bien entendu, par la firme Chevron Texaco. Sur ce point, Tara Varma, est-ce que, justement, dans ces moments où se croisent des questions économiques, des questions de défense de l'environnement, eh bien, c'est une autre diplomatie qui peut se mettre en place? Et comment peut-elle se mettre en place, vu de là où vous êtes avec votre think tank?
Je pense que c'est tout le principe du multilatéralisme. Un multilatéralisme qui est fondé sur des règles basées sur du droit, il permet de trouver des intérêts communs. Je ne pense pas qu'on ait eu partagé les mêmes valeurs que tous les pays membres des Nations Unies auparavant. Peut-être qu'il y a une accélération, une dramatisation de la situation aujourd'hui, notamment du fait de l'absence d'un leadership américain qui poussait quand même beaucoup ces sujets. Pour autant, il reste des grands sujets d'enjeux globaux avec lesquels on peut trouver des intérêts avec un certain nombre de pays. Trouver un vaccin pour qu'il soit une cure au Covid, je pense que ça en fait partie. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de la compétition. D'ailleurs, il y a une compétition féroce actuellement qui s'opère pour déterminer qui sera le premier pays ou première entreprise à le trouver. Un certain nombre de pays européens se sont mis d'accord pour que, dans le cas où ce serait sur le territoire européen qu'on arriverait à trouver le Covid, ce vaccin serait distribué aux 400 millions d'Européens. On voit bien que les États-Unis agissent aussi de leur côté, mais il peut y avoir quand même, même dans ce cadre compétitif, des intérêts communs et des objectifs communs.
Est-ce que vous y croyez encore, justement, à cet objectif qui était celui de la diplomatie sortie de Seconde Guerre mondiale, Claude Martin, qui était cet objectif, justement, d'une capacité de s'entendre à un niveau international, même dans un contexte tendu comme celui de la guerre froide que vous décriviez tout à l'heure? Il y avait des enceintes dans lesquelles on pouvait continuer à discuter. Est-ce que vous pensez que la condition dans laquelle on est plongé aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de nouvelle guerre froide, correspond à un nouveau volet très différent de ce qui a pu se passer auparavant?
Je pense que les Nations Unies, c'est une chose formidable.
Donc, vous le dites avec le sourire, il faut le dire aux auditeurs. Vous avez raison, c'est
oui,
bien.
C'est une chose formidable.
Il y a trop peu de gens qui le disent encore aujourd'hui.
Y compris d'ailleurs la déclaration universelle qui va avec, etc. Donc, que le monde entier obéisse à un certain nombre de principes, et en même temps, la charte est tout à fait réaliste. Le droit de veto, il est réaliste. Bon. Il faut pas se dire tout d'un coup, oh là là, c'est dommage qu'il y ait le droit. Parce que s'il n'y avait pas le droit de veto, s'il n'y avait pas cette possibilité pour certains États de dire non, ça je veux pas, eh ben, ça serait la guerre. Bon, il y a eu la guerre en Corée, justement, parce que l'URSS n'était pas là au moment où on a pris la décision. Donc, la charte des Nations Unies, elle est bien telle qu'elle est. Bon. Il y a beaucoup de monde autour de la table, dans l'Assemblée générale des Nations Unies, j'y suis allé souvent, on a l'impression quelquefois que bon, c'est la meute, et il faut essayer de trouver quelques pays importants et de faire avancer l'opinion internationale à travers ces quelques pays. Mais c'est bien. Non, ce qui est venu après, alors la guerre froide, c'est après. Hein.
Mm-hmm. C'est bien, oui.
C'est l'OTAN, c'est le pacte de Varsovie, bloc contre bloc, etc. Et ce contre quoi le général de Gaulle a lutté, ce qu'il a réussi à faire, notamment en reconnaissant la Chine, en faisant vis-à-vis du tiers-monde un certain nombre d'ouvertures, c'est d'essayer d'aider, nous, la France, puissance moyenne, à désagréger un peu ces blocs. Et depuis quelques années, ce à quoi on assiste, c'est la volonté des uns et des autres
de recréer,
de nous dire, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et ça questionne la politique européenne, tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que la politique européenne doit consister à être la cinquième roue du char américain, ou est-ce que nous avons, dans un certain nombre de situations, y compris quand les partenaires avec lesquels il faut discuter nous déplaisent, la possibilité de tenir un autre langage en disant « c'est nous l'Europe ». Donc ça c'est la première question, c'est de savoir si nous sommes capables d'avoir à la fois une autre façon d'avancer et une cohésion sur ces façons. Et deuxièmement, est-ce que nous sommes capables d'être assez intéressants, nous, en tant que partenaires européens, pour que là, non pas l'intermédiaire européen, mais le noyau européen soit un acteur sur la scène internationale.
C'est intéressant.
Les dernières épreuves, l'Iran, bon, évidemment la Chine, l'URSS, enfin la Russie, j'emploie encore les vieilles appellations parce qu'on est revenu à la guerre froide et qu'on la traite absolument comme si elle était encore l'URSS, ce qui n'était absolument pas le cas, eh bien nous ne sommes plus au centre du jeu, nous sommes d'un côté.
C'est intéressant d'avoir utilisé ce terme d'intéressant, c'est-à-dire qu'en diplomatie, il faut être intéressant. Qu'est-ce que vous appelez intéressant pour pouvoir intéresser l'autre ?
Eh ben, intéressant, ça veut dire avoir la capacité d'intervenir sur la scène internationale, ça veut dire une capacité de défense, ça veut dire une autonomie économique. La crise iranienne...
Intéressant, c'est un autre nom qu'on pourrait dire de menaçant en possibilité.
Non, mais je prends l'exemple de l'Iran. Quand M. Trump dit « j'interdis à toutes les sociétés, y compris les sociétés européennes là, qui continuent à essayer de discuter avec l'Europe, je leur interdis », et que on voit bien qu'on n'est pas capable d'être autonome... que malgré l'euro, il suffit qu'on ait quelques économies quelque part ou quelques investissements quelque part en dollars pour que, dire finalement, c'est les Américains qui commandent, nous ne sommes plus un partenaire intéressant.
Je crois que c'est tout à fait le sujet de l'autonomie stratégique, et de l'autonomie stratégique européenne. L'autonomie stratégique, elle se définit dans le livre blanc français de la défense comme la capacité d'agir indépendamment dans un monde interdépendant. Et on a envie... que l'Union européenne ait cette capacité aussi. Jusqu'à maintenant, elle s'est développée principalement autour du marché commun, qui est sa grande force. On a souvent dit de l'Union européenne que c'était un géant économique et un nain politique. Il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre de pays européens qui comptent sur l'OTAN pour assurer leur défense et leur sécurité nationale. C'est pas complètement le cas de la France. Donc on a aussi une divergence là-dessus avec de nombreux pays européens. Pour autant, il semble assez évident maintenant à beaucoup d'Européens qu'il va falloir construire... Ça n'a pas besoin d'ailleurs de s'appeler autonomie stratégique, ça peut s'appeler capacité d'agir, c'est la traduction en allemand. Il faut qu'on ait envie, nous, de nous allier avec nos alliés quand cela nous arrange et d'être capable de mener nos propres politiques quand cela arrange nos intérêts aussi.
Vous avez été ambassadeur à Berlin. Qu'est-ce que vous pensez, Claude Martin, c'est une question que je me suis posée hier en voyant l'actualité, du retrait de 12 000 soldats américains du territoire allemand de l'Allemagne au profit de la Belgique et de l'Italie. On a vécu, et vous avez vécu, et de la Pologne. Vous avez vécu, comme moi, ces moments où les forces américaines en Allemagne étaient considérées comme le parapluie qui protégeait l'Europe de la puissance soviétique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce départ des troupes américaines, selon vous ?
Oh, c'est une décision qui était prévisible depuis un certain temps. Je crois que Trump l'avait annoncé, l'avait utilisé comme une menace, mais une menace dont on sait que M. Trump est capable de les mettre à exécution. Et je pense que, quelle que soit cette attitude américaine, il faut tenir compte du fait que l'Allemagne restera toujours un fidèle allié des États-Unis. Il est, depuis 50 ans, totalement vain de se dire que nous aurons une possibilité de faire avec l'Allemagne quelque chose qui ne serait pas accepté par les Américains.
Vous êtes d'accord, Tara Marma?
Je pense que... Il y a une différence entre la position du ministère allemand des Affaires étrangères et le ministère allemand de la Défense. Le ministère des Affaires étrangères commence à avancer plutôt vers une logique d'européanisation de sa politique étrangère et de sécurité. Le ministère de la Défense allemand est très proche, effectivement, des positions otaniennes et de la nécessité de garder l'allié américain comme garant de sa sécurité nationale.
Un dernier mot, peut-être, Claude Martin. Après une longue vie de diplomatie comme la vôtre, est-ce que on ne finit pas par être un peu misanthrope et se dire tout compte fait, l'homme que j'ai en face de moi, ou que je n'ai plus en face de moi, l'autre diplomate ou l'autre ministre qui est en face de moi, eh bien, tout compte fait, il répond à des vieux ressorts, c'est la même chose un peu partout où je me suis rendu.
Non, pas du tout. Enfin, je veux parler de l'Allemagne, puisque c'est l'Allemagne, je pourrais dire la même chose sur la Chine. Mais sur l'Allemagne, au moment où je suis parti pour Berlin comme ambassadeur, un de mes vieux anciens m'a dit, vous verrez avec les Allemands, il y a toujours deux vérités simultanées et superposées. Et vous aurez beaucoup de mal à savoir quel est l'Allemand qui vous parle. En fait, je suis resté 9 ans ambassadeur en Allemagne et je n'ai vu qu'une Allemagne. C'est-à-dire qu'il faut savoir écouter. Et il y a dans ce que disent les Allemands des choses qui nous paraissent à nous contradictoires. Et souvent, et c'est la raison pour laquelle nous patinons dans les relations avec l'Allemagne depuis 50 ans, nous prenons ce qui nous intéresse. Et il faut prendre l'autre tel qu'il est. Mon ami et mon grand ami Pierre de Boissieu, qui a été un des artisans de la construction européenne à une certaine époque, disait « La diplomatie, le problème, c'est qu'il faut la faire avec des étrangers. » Évidemment, c'est le problème, et avec les Allemands en particulier.
Oui, et c'est une vraie question d'anthropologie, ça, oui, faire avec les étrangers.
C'est plutôt une chance. Ce qui me semblait intéressant de rappeler sur la place de l'anthropologie dans ce genre de débat, c'est peut-être d'essayer d'ouvrir ce qui nous semble être des évidences, et en l'occurrence, ce qui émerge aujourd'hui en anthropologie sur la question de la diplomatie, c'est de se demander si on pourrait pas s'en passer. Est-ce que c'est une notion utile? Est-ce que c'est cette idée que la diplomatie de représentation...
C'est ce que vous dites dans ce dossier de
terrain. Est-ce forcément souhaitable? Parce que le rôle de représentant, qui est au cœur de la définition classique de la diplomatie, et je pense que c'est difficile de l'en faire sortir, c'est la notion de représentation. Et il y a un très bel article de Charles Tsepanov dans le numéro qui justement se pose cette question. Et il examine l'histoire de la colonisation de la Sibérie par les Russes du 16e au 19e siècle, et en voyant comment est-ce que les Russes ont réussi ou pas à imposer l'existence de diplomates dans les sociétés qu'ils ont rencontrées. Et il y avait des sociétés qui acceptaient la notion de représentation politique, qui avaient déjà une stratification sociale. Cela, ça s'est bien passé du point de vue des Russes assez vite. Et les autres qui n'en avaient pas. Donc les Russes peinaient à imposer des diplomates. Ils ont mis beaucoup plus longtemps. Mais par contre, c'est le revers de la médaille, c'est que ces sociétés-là ont beaucoup plus souffert de la colonisation.
Oui, Stepanov, dont vous parlez, qui est tout à fait dans la lignée de Pierre Clastre, effectivement, sur les sociétés dans l'État, sans l'État en particulier.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de cette veine de l'anthropologie politique qui cherche à penser des rapports en dehors de l'État. Mais bon, ici, il n'est pas le seul. Hein. Ça, c'est un petit peu, c'est classique en Amazonie d'avoir des sociétés qui ne tournent le dos à l'État.
Merci beaucoup à vous. Merci donc Emmanuel de Vienne. Je rappelle que ce numéro de Terrain sortira bientôt.
Le 10 septembre, ici, il m'est permis d'être l'ambassadeur d'un tout petit groupe amazonien qui compte à peine 300 personnes, mais qui aujourd'hui se prend de plein fouet le double virus du corona et de Bolsonaro. J'ai mis un petit appel aux dons sur Litchi. Donc, si les gens nous écoutent, ils peuvent les aider à acquérir des biens de première nécessité. Leur situation est un petit peu inquiétante.
Merci beaucoup. On mettra cela sur le site de France Culture. Homo Diplomaticus, ça sort à la rentrée. C'est la collection Terrain. Donc, c'est la revue Terrain. Claude Martin, votre livre, La diplomatie n'est pas un dîner de gala, dans lequel on trouve énormément de notations sur ce qu'est au quotidien le travail de diplomate. Et merci à vous, justement, Tara Marma, d'être venu pour dialoguer avec nos deux autres invités. Le temps du débat demain, ça sera sécheresse, les nouvelles batailles de l'eau. Nous allons parler effectivement de l'eau en France. Et puis, c'est comme toujours, Sophie Alavi, Mathilde Thon-Fourcade, Alexandra Delbault, Audrey Dugas, Nicolas Berling, à la technique, Sylvain Latu, à la réalisation, Émilie Valla. Et demain, dans les matins de France Culture, la vie, quoi qu'il en coûte, avec Ariane Colonomos, en particulier spécialiste de l'éthique et des relations internationales.